Parfait. Du coup, je vais te donner la parole, Edith. Donc Edith Planche. C'est la deuxième fois qu'on se voit. On s'était déjà rencontré à un apéro à l'Ethnocafé. Et moi, j'ai connu ton travail par le biais d'un article. Je sais plus où j'ai trouvé cet article, mais peut-être c'était Anne Cibron qui me l'avait donné. Et à la lecture, j'ai trouvé vraiment une grande proximité entre ton propos et ce qu'on cherche à explorer à l'Ethnocafé dans cette question du rapport à l'environnement, d'une pensée qui s'inspirait de la nature en opposition à la pensée carrée du cartésianisme qui pourrait être une pensée ronde, une pensée sensible. Et du coup, voilà, j'ai fait des petites recherches sur toi, j'ai vu que tu étais ethnologue. Ouais, tu es chercheur associé à un laboratoire de recherche, mais peut-être tu vas prendre le temps de te présenter.
Oui.
Du coup, je te laisse la parole et on te remercie d'avoir pu venir malgré la maladie, malgré un gros travail que tu mènes là pour un article. Écoute, on est content que finalement que la soirée se fasse. Les astres sont alignés.
Alors bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Edith Planche, je suis ethnologue. Alors, chercheur associé laboratoire environnement ville société, aujourd'hui, actuellement, j'ai surtout suivi la plantine dans ce laboratoire, puisque son laboratoire, le CREA, s'est arrêté et j'ai suivi la plantine. Voilà, François Laplantine, c'est quelqu'un qui a créé le département d'anthropologie à Lyon 2 et qui a beaucoup travaillé sur les médecines populaires et un petit peu toutes les marques. Voilà. Donc, je suis chercheur associé à ce labo et surtout fondatrice de l'association Science et Arts. Donc, l'association Science et Arts propose de l'éducation à l'environnement par le sensible. Et l'art et l'ethnologie deviennent ici des outils pour se reconnecter à l'environnement. Alors, se reconnecter à l'environnement, pour aller dans le thème, poésie et soins, l'art permet... Avec la poésie au sens générique de l'art, l'attitude artistique permet de rentrer en soin avec soi-même. L'ethnographie, puisque j'ai travaillé sur des territoires, permet de rentrer en soin avec son milieu de vie. Et puis, le tout permet de rentrer en soin, enfin, avec la planète. C'est très important de réinjecter du sensible dans nos sociétés. C'est primordial, parce que même si ça existe de façon séparée. Alors, j'y reviendrai. L'éducation à l'environnement, c'est quoi? C'est alors l'appellation éducation à l'environnement au Canada, on va dire éducation relative à l'environnement. Quand c'est récupéré par l'éducation nationale, c'est éducation au développement durable. Souvent en France, on dit éducation à l'environnement et au développement durable. C'est au départ des ONG qui vont dans les écoles former. C'est récupéré par les SVT et la notion, l'appellation d'éducation à l'environnement. Contient toujours notre rapport à la nature, non finalement non décrypté. Alors vous verrez ce que je veux dire. Alors, je ne commence pas par vous lire un poème parce que je le lirai à la fin si j'ai le temps. Alors mon livre Éduquer à l'environnement par l'approche sensible, au départ j'avais mis par le sensible, reflète cette double trajectoire anthropologie et éducation. Avec une première partie anthropologique qui essaye de montrer comment la rupture entre science et art est de même souche que la rupture entre nature et culture et comment elles sont à la source de la déconnexion de l'humain avec son environnement. J'examine dans cette première partie différentes formes de rapport à la nature dans l'espace géographique, à la lumière de Philippe Descola, bien sûr, qui a déterminé 4 ontologies de rapport à la nature, mais aussi à la lumière de nos sociétés rurales, fin 19e, début 20e, qui composaient avec la nature de proximité. Et j'ai pas mal travaillé sur des patrimoines liés à cette perte de vitesse de sociétés rurales qui revendiquaient leur identité, qui trouvaient que la société se japonisait. Donc au niveau professionnel d'ethnologue, en ethnologie de la France. Et donc la deuxième partie est éducative dans ce livre. Elle propose des pistes pour construire une pédagogie du sensible et des ateliers à mettre en œuvre. Donc il y a des ateliers aussi qui ont été expérimentées au sein de l'association Sciences et Arts pendant 20 ans. Donc auprès de publics, publics scolaires, centres de loisirs, mais aussi adultes, et en partenariat avec des collectivités territoriales, des ministères, des rectorats concernés. Donc il y a un gros projet que j'ai mené pendant 20 ans avec la région, Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes, et qui invitait toutes les écoles riveraines du fleuve à explorer leur fleuve local et en faire une restitution artistique avec cette mallette qui propose des pistes art et science. C'est toujours la dynamique art et science. Et vous verrez que ça remet du volume symbolique dans le paysage. Donc toutes les illustrations que vous allez voir sont issues de ce projet, souvent des résultats d'enfants. Donc nos sociétés occidentales se sont construites sur des ruptures en cascade, dont la rupture, donc science et art, nature, culture, reproduite dans l'éducation entre le savoir et soi-même. On invite l'apprenant à raisonner à partir d'un énoncé abstrait en occultant toutes les parties sensibles et subjectives, les émotions, les sensations, le corps, les renvois au connu qui auraient pu raccorder à lui-même et donner du sens aux apprentissages, surtout en France. Le sort de l'élève scolaire est malgré tout encore de se conformer à un savoir abstrait qui vient de l'extérieur, suspendu à une parole hétéronome, extérieure à lui, en surplomb. Et malgré le fait qu'on a changé, on ne va plus remplir comme un vase les élèves en leur demandant de retenir que le Rhône est un fleuve de 812 km, on s'adresse quand même avec le terme responsable, on veut des élèves responsables, et on leur pose toujours des questions, et des problèmes qu'on demande de résoudre par le cerveau, la pensée rationnelle. Donc même si c'est ludique, hein, même quelquefois avec la pensée ludique, le ludique n'est qu'une manière d'illustrer finalement des questions et des réponses dans une chaîne logique. Nous, à Sciences et Arts, on fait l'inverse. On va partir du sujet, du sensible, de la perception sensible, pour aller vers l'objet, l'objectif et la compréhension. Donc on va avoir par exemple « J'aime pas le Rhône parce qu'il a des poux ». Souvent on avait « J'aime pas le Rhône parce qu'il a des pneus ». Ou alors « J'aime le Rhône, je vais t'aider, je fais partie du conseil municipal, à bientôt, un ami qui t'aime », etc. On parle du sujet. Alors, on voit là que c'est de l'éducation à l'environnement, mais au sens large, c'est-à-dire avec la nature, hein, avec la culture. Donc ça, c'est par exemple des résultats d'une enquête ethnologique à gauche en haut, des questions qui ont été posées aux riverains par les enfants, et ça donne cette mise en volume finalement des réponses. Donc on voit qu'il y a une oreille qui a une voiture, donc on peut imaginer le questionnaire, il y a des questions qui vont donner ces réponses tout en faisant que l'imaginaire se glisse dans ses contraintes, en fait. Représentation de la biodiversité, forme et fonction écosystémique, la nature, et toujours à travers la dynamique art et science. L'environnement au sens large, c'est la nature, la culture, mais c'est aussi le rapport au réel. Et c'est là où on va remettre de la poésie, du volume. Parce qu'on peut voir quand même que c'est du volume là, c'est quand on illustre un questionnaire anthropologique par une figure, par des formes comme ça, c'est du volume. Alors pourquoi Sciences et Arts ? Je l'ai créé en 2000, j'avais le sentiment de vivre dans un monde boiteux. Je suis rentrée en anthropologie en 80, dans les années 80, et un peu pour retrouver du mythe. Et je me suis heurtée à une certaine forme de colonialisme épistémologique, c'est-à-dire de colonialisme de la pensée, où finalement on retraduisait pas la pensée de l'autre qu'on étudiait, mais on l'interprétait à travers nos grilles occidentales. J'avais démarré une thèse sur l'astrologie avec François Laplantine, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets tabous. Il a travaillé sur la voyance aussi. Mais c'était très difficile à l'université. Alors, sentiment de vivre dans un monde boiteux, l'astrologie, c'est la pensée analogique. qu'on retrouve dans l'art. Donc génériquement, c'est essayer de relier esprit critique et respiration poétique. Pourquoi respiration ? Parce que la poésie, justement, c'est pas une pensée, c'est une respiration. Alors, je m'appuie sur Devereux parce que souvent quand je présente ce travail, il faut m'appuyer sur sur Devereux et sur Lévi-Strauss, que tout le monde connaît, Lévi-Strauss. Il faut s'appuyer sur des définitions. Donc pour lui, la pensée rationnelle est déterminée par l'intelligible. On évacue nos sensations pour manipuler des concepts. Il dit qu'à l'inverse, la pensée sauvage calcule avec l'enseignement de l'expérience sensible, odeur, texture, couleur. Alors lui, il rajoute que ces deux formes de pensée sont tout autant valables pour décrypter le monde. Et je dirais que l'une n'exclut pas l'autre. Georges Devereux énonce que chaque société présente une matrice primaire et une matrice secondaire ou refoulée. Il fait un peu une lecture psychanalytique de chaque société. Et pour moi, la poésie est la matrice secondaire de notre société qui exprime le refoulé de cette pensée sauvage, puisqu'on la refoule beaucoup avec la pensée rationnelle, enfin avec notre société qui est structurée par la pensée rationnelle. Et donc, ça exprime sa part animiste, puisque chaque société peut avoir une part animiste, finalement, dont on a besoin, d'où la vérité incomplète. Donc, tout est parti du constat d'une perte de sens. Nous vivons dans un monde fonctionnel, coupé du sol, de la nature, mais aussi coupé du symbole. Désenchanté, pour rimer, nous sommes coupés du sol et du symbole. Ce qui nous oriente, ce n'est pas le sens du vent, mais les panneaux de circulation routière. Et Dieu sait, enfin, combien le vent dans les sociétés indiennes, l'air, le souffle est important, et dans les sociétés amérindiennes, le vent est très important aussi. Nous restons à la surface plane de cette pancarte, du signe qui domine par rapport au symbole. Ce désenchantement avait été annoncé par Max Weber, là je fais encore des références, il y a un sociologue dans la salle, avec l'industrialisation et la bureaucratisation de la société. Mais pour moi, plusieurs essais s'emboîtent. Il y a d'abord Descartes qui essaye bien plutôt de construire la pensée scientifique en évacuant tout le sensible, la confusion. Il se méfie beaucoup de la confusion. Il combat l'obscurantisme, ce qui est une bonne chose. Mais après, on a les Trente Glorieuses qui accélèrent l'industrialisation, que Max Weber met en relation avec ce désenchantement. Mais moi, je me demande si tout part pas au fond de l'Holocène, c'est-à-dire du développement de l'humain sur Terre, puisque l'humain adore créer des artefacts, des choses artificielles. Et d'ailleurs, avec l'animal, il le rend objet. Pour moi, c'est la pire illustration de cette obsession de l'artefact. Mallory a fait appel à moi pour... Jean Mallory, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ethnologue qui a essayé de démocratiser l'ethnologie avec les rois de Thulé, et j'ai écrit dans ce livre, Arctica œuvre 2, il a eu 100 ans cette année, enfin en 2022. Et donc il m'a demandé d'écrire pour les Inuits de Sibérie arctique, qui après le départ des Soviets se sont retrouvés un peu seuls, et il aimerait qu'ils administrent leur région. Avant, c'était en fait les Soviets qui l'administraient. Souvent, il y avait des goulags en Sibérie arctique. Hein, c'est toute la moitié du globe. Hein. Donc, il y avait des mecs payés très cher pour aller administrer ces régions. Et lui, il a voulu que les Inuits les administrent. Parce qu'après le départ des Soviets, ben, on a eu des immeubles, par exemple, où il n'y avait plus de chauffage parce qu'il était cassé. Et des Inuits qui revenaient au feu de camp, etc. Donc, il m'a dit, je voudrais replonger les élèves dans l'expérience sensorio-sensible et kinesthésique qui apparaît comme un contre-pied à cette perte de l'imaginaire qui s'occidentalise. Donc, puisque à Sciences et Arts, on fait du volume hein, avec l'art, on remet en volume les choses, c'est ça le symbole, hein, c'est un enrichissement, mais aussi des balades poétiques. Il faut savoir quand même que beaucoup de jeunes Inuits se suicident parce qu'ils se heurtent aux écrans plats de la télévision. En fait, il y a un fond. Et dans le mythe, dans le symbole, il n'y a pas de fond. C'est enrichissant. Alors, la rupture science et art nous coupe du symbole, d'une pensée reliée et augmentée. Augmentée par l'image, hein, qui dit plus que ce qu'elle montre. Et donc, nous coupe aussi du sujet et donc nous met hors de soi. Descartes nous demande de nous méfier du commerce des sens et des égarements sensibles pour mieux observer le réel. La culture rationaliste a structuré notre rapport réel, au réel dans nos sociétés techno-scientifiques malgré Edgar Morin, l'incertitude, etc. Enfin, des choses qui éclatent un petit peu actuellement en science. Donc nous sommes structurés pour nous situer à l'extérieur de nous-mêmes. Et tout ça relève d'une construction sociale, c'est-à-dire c'est pas existant dans chaque société, c'est une construction. C'est un mythe quelque part, le mythe de notre société occidentale, d'un idéal type masculin qui ne rêve pas et ne dort pas, toujours carré, jamais fou, jamais flou. C'est le règne de la raison, loin de l'animal et du végétal. J'arrive pas à lire dessous, donc voilà, mais de toute façon je vais y revenir par le schéma suivant. Laplantine a cité Michel Benessayag avec cet individual l'Odyssée en cascade, et je l'ai mise en schéma. Donc on part de l'existant du vivant, on sépare l'organique et l'inorganique, l'animal et le végétal, l'humanité et l'animalité, la conscience et l'inconscience, la sagesse et la folie, la raison et l'imaginaire, le savoir et le désir et la poésie. Et finalement, on voit que la poésie correspond au désir, à l'imaginaire, à la folie, à l'inconscience, animalité, végétale, inorganique. Alors il y a plusieurs échelles, bien sûr. Mais Descartes exclut de la raison les fous, les enfants, les sauvages, nous dit Laplantine. Parce qu'il a horreur de la confusion. Et les femmes, je crois aussi. Alors, quand je parle des femmes, je parle du féminin et du masculin qui peut être en chacun, hein, parce qu'on ne va pas fustiger les hommes. Voilà, mais il y a plusieurs échelles là aussi. Alors, qu'est-ce que cette mise en volume? Qu'est-ce que cette fructification, ce symbole? Et bien, par exemple, à Science et Art, quand on travaille sur le fleuve Rhône, on va exprimer le concept de chaîne alimentaire par une chimère qui inscrit le lien proie-prédateur dans le cerveau par l'image. On va visuer la sobriété énergétique avec les variations du costume de l'arlequin, qui est un thème, hein, vous qui êtes peintre, madame, très célèbre chez les peintres. Et le langage des couleurs, c'est un autre biais que l'argumentation. C'est de la monstration plus que de la démonstration. Par exemple, là, c'est la chaîne alimentaire avec des animaux qui mangent des végétaux. Bon, j'ai laissé ce slide parce que c'est à la Croix-Rousse, hein, c'est en haut de la montée de la Grande Côte. On va jouer avec les couleurs du fauvisme pour exprimer, mettre en valeur, analyser le paysage. Alors, la rupture nature-culture nous coupe du sol. La technique coupe l'homme de la nature et nous met hors sol. C'est le socle de la rationalisation qui opère des coupes brutales dans l'écosystème, les logiques de la nature, mutile les paysages et les bêtes avec des quadrillages et des cages, met les esprits dans le moule de la planification contraire à la composition avec le terrain local. On part de la rationalisation pour créer des paysages qui sont fonctionnels. Michel Lussault dit que la société, l'anthropocène, qui est cette force humaine qui remplace les forces géologiques et cosmiques pour avoir une domination sur la planète, l'anthropocène, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, enfin, voilà, c'est ce souci de l'homme qui finalement domine la planète et impacte le plastique va bientôt de constituer le sol. Donc on part de cette rationalisation pour créer des paysages qui sont fonctionnels. Par exemple, on va créer des bâtiments, beaucoup de bâtiments, etc. On ne va pas du tout tenir compte des corridors écologiques. Donc maintenant, il y a des plans, des trames vertes et bleues qui vont essayer de réparer ces corridors. Trames vertes et bleues, trames noires, la nuit, trames sonores aussi. Hein, il y a des animaux qui se repèrent au sonore. Donc en tout cas, la pensée et les espaces sont assujettis à des normes univoques. La technique coupe l'homme de la nature, donc ça c'est Max Weber qui l'a dit, mais par exemple, autrefois, le comté, par exemple le fromage du Jura, l'artisan, il tapotait la meule, il la sentait, il la secouait pour voir le stade de l'affinage. Maintenant, c'est une machine qui mesure ce stade dans la cave, donc on est coupé des sens, on est coupé de tout en fait. Exemple des sociétés du 19e. L'heure du lait autrefois dans le Jura, c'était l'heure de la vache. Les gens trayaient les vaches et ils allaient porter le lait dans une petite salle dans le village, c'était un mot, qui était une occasion d'un rituel de convivialité. Tous les gens se retrouvaient. Maintenant, aujourd'hui, il y a une berthe, un espèce de frigo qui est à la porte des maisons. Et finalement, c'est plus l'heure de la vache, c'est l'heure du fonctionnaire qui relève le lait. Et les gens ne se rendent compte plus. Le bois de la guinguette prenait l'eau au gré des crues, épousait l'eau et s'adaptait à l'eau, se déformait au gré des crues. Maintenant, c'est le barrage, le mur en béton. Maintenant, on essaye au 21e de recomposer avec la nature autrement. La séparation entre science et art qui est désenchantante. L'enchantement contient la notion de psalmodie, de vibration d'énergie et de même souche que la rupture entre nature-culture qui véhicule des valeurs de froid, de platitude et de distance. Donc pour moi aujourd'hui il s'agit de dérationaliser, non pas irrationaliser. Hein. Donc dérationaliser les espaces, par exemple je vous ai parlé des trames vertes et bleues, les chaînes de pensée, redonner de la voix aux voix du sensible, aux ramifications, faire des liens sensibles. La médecine est un bon exemple, la biochimie va soigner avec un médicament qui est bon pour tout le monde. Avec l'ethnomédecine ou les médecines parallèles, on va recréer le lien entre le malade et sa maladie en fait. C'est des chemins de traverse. Donc tout est question pour moi aujourd'hui de liens à rétablir. Il s'agit de se reconnecter avec le savoir, à contrario du pur cerveau, avec la nature, à contrario du cladisme, de ce regard humain observant qui conduit à la rupture nature-culture. Quand je dis rupture nature-culture, c'est les exemples des immeubles. Hein. C'est de la culture, les immeubles, l'urbanisation de la société et tout. C'est presque cette création d'espaces partout urbanisés qui domine maintenant, avant c'était 50-50 au 20e, c'était 70 de rural, 30 d'urbain, aujourd'hui c'est l'inverse. Et Michel Lussault dit que finalement toutes les infrastructures de la planète sont complètement, dominent tout l'espace. Et comment dire, les espaces comme ça, anthropisés, c'est le risque le plus grand par rapport à l'anthropocène et au risque de la planète. C'est ce risque justement de voilà, c'est plus important que d'autres choses. Donc Cladis, regard humain observant. Quand on voit un merle, on va dire il a deux pattes, on va le décrire, il a deux pattes, des plumes, une queue, etc. Mais est-ce que c'est ça un merle? Paul McCartney, qui a beaucoup milité pour l'animal, hein, il a laissé un sillon au merle dans un de ses albums, où le merle chante tout seul, il n'intervient pas. Avec le sensible, donc rétablir les liens avec le sensible, à contrario de la domination de l'intelligible, de Descartes, Toussac, des idées claires et distinctes qui rendent boiteux de la pensée sauvage, de cette pensée reliée. L'art conduit à réhabiter le thème avec soi-même pour motiver les apprentissages, hein, pour les enfants, mais aussi le care, le prendre soin, pour réenchanter, remettre de la vie, du volume dans le paysage, réinjecter du lien avec l'environnement et les choses à connaître. « Je suis un pont, dit l'enfant, ou je suis la berge qui accueille correctement les animaux. » On est enclin à établir une relation intime et augmentée avec les objets du monde, l'environnement au sens large, hein, c'est les objets du monde, à donner du volume au vivre. Mais aussi l'art mobilise du vivant en soi-même, donc de la motivation, mais aussi de la vibration. Le symbole est enrichi, il est vivant. On est beaucoup dans une civilisation mortifère ou mortifocène, à platocène, qui manque de vivant. On peut travailler avec les adultes, hein, là c'est un travail avec les adultes, je vous montrais juste ces dessins parce que c'est le confluent, perception objective, perception subjective. L'approche ethnologique, eh ben, elle permet de se reconnecter à la mémoire du territoire et donc le rend lisible via le récit affectif. Donc cette tour de Bacatraille au bord du Rhône, ces tours là qui sont le long des deux rives avec un fil, eh ben ça me rappelle, je sais ce que c'est maintenant, ça me rappelle ce grand-père qui m'a raconté qu'en temps de guerre, il faisait passer les gens d'une rive à l'autre. Donc l'enfant, ça le raccorde à des racines. J'ai eu une expérience à Vaux-en-Velin avec cette maison de retraite et les enfants qui ont eu 12 séances. Et c'était extraordinaire, à la fin ils donnaient à manger, parce qu'on avait recréé une guinguette à une vieille dame qui était absolument incompréhensible. Elle n'arrivait pas à parler. Ils étaient très patients et ça les a marqués. Ça les a, c'est une filiation symbolique. À Vaux-en-Velin, il n'y a plus les traces du Rhône. N'empêche qu'il y a des rues de la Joute, des rues du Tabagnon, c'est le truc de la Joute là. Toutes les rues sont marquées de toute cette mémoire. Qui n'est pas forcément apparente, hein. La rise à Vaux-en-Velin, elle est enterrée maintenant. Donc ça donne du sens et de la densité qui sert l'envie de ne plus dégrader ce territoire, de la consistance au sens de Bruno Latour dont on parle beaucoup en ce moment, qui est décédé, mais voilà. Ça le rend précieux et habité, non vide. Derrière ma rue, il y a de la filiation qui forme des fils symboliques d'un rapport à mon quartier. Tout n'est pas fonctionnel et plat, mon quartier, ma ville, grouille de mémoire, sont pétris de vécu et d'affect, donc de volume. Se connecter avec les anciens qui ont forgé ce territoire est une filiation symbolique. Car le symbole, on en manque. Alors là, je vous lis quand même un petit poème. À la périphérie des villes, aux abords des zones industrielles, où subsistent quelques lumières dévoilant encore le paysage, L'œil n'a pour seule nourriture que des blocs de béton, bretelles d'autoroute ou longs murs grisâtres sur lesquels l'univers de la pub et de la signalisation routière se déploie. Domaine du signe, panneaux sans fond sur lesquels vient buter la pensée. Placard publicitaire contre affiche imaginaire. Signe contre symbole. J'ai soif du symbole qui ouvrirait la fenêtre, respiration poétique, pour aérer les neurones, pour faire fructifier les images et enrichir la pensée. Donc là, on voit que les enfants relaient les personnes âgées qui voulaient retrouver des guinguettes, et ils créent du lien avec eux-mêmes et avec le territoire, pétri de mémoire, puisque la guinguette, c'était en 2005 ça, hein, donc c'est une forme de dancing, hein. Ils réapproprient la guinguette à leur image, où on voit aussi l'immigration qui apparaît avec des houdes, la guinguette avec avec des houdes, voilà. Donc il y a une réappropriation, des liens qui se créent, toujours des liens. Donc on va rétablir les ancrages et accroches sensibles à l'environnement et aux apprentissages. L'image, ce tableau, les valeurs personnelles de Magritte, pour moi symbolise ça. L'art et l'ethnologie ont un commun, le fait d'établir un lien, de réduire les distances entre soi et l'extérieur, la capacité à réenchanter au sens de remettre du vivant et du volume, réhabiter le paysage avec soi-même, ses préoccupations et valeurs personnelles, réanimer l'environnement, le réveiller, le pont en bonbons et en jus de fruits ou le pont basket vont nous donner envie d'en savoir plus sur les ponts du Rhône. Ou matérialiser les étymologies par un dessin, c'est rendre le paysage vivant, habité par la mémoire des anciens, par des fils symboliques. C'est comme réanimer le souffle des ancêtres, redonner vie, tout n'est plus fonctionnel et plat dans cette civilisation aplatocène. Mais on va se reconnecter non seulement à la nature, mais aussi au mur. Investir le territoire avec du sensible, c'est valoriser les pistes de la mémoire, du vent, de la sensation vécue par l'apprenant en mouvement. Là, on a fait beaucoup de balades familiales dans le cadre de ce projet rhodanien et on traversait des ponts parce qu'il y a des sensations en traversant des ponts. Et on visitait l'urbain et le naturel. Et on laissait des espaces pour partager la mémoire. Il y avait des parents, des grands-parents, des concitoyens ou des espaces de respiration poétique. Si on n'a pas de mémoire, bah ça me fait penser à... On réinjecte tous ces fils sensibles, vivants et connectants. Pour avoir plus envie d'en savoir plus, parce que du coup on est concerné. On réhumidifie l'apprentissage, à contrario de le dessécher. Donc là on voit toutes ces balades qui vont... Il y a des poussettes, il y a des grands-pères, des enfants et des parents. Sur un plan pédagogique, l'en soi du sujet émotionnel et de l'intimité créative. Fréquenter le thème de l'énergie avec l'art, l'énergie qui est un thème très technique. dit le chez-soi du sujet quotidien et du sujet local, c'est-à-dire mon objet électrique personnel, alors souvent appareil portable, hein, ce qui donne lieu à débat. S'il fallait sauver un seul objet, souvent c'est le téléphone portable. Mais les enfants ne sont pas idiots, ça permet de faire plein de choses. Et puis on va s'intéresser à l'énergie locale, là, l'hydroélectricité. On va créer des chansons, on va faire le concert du Rhône, une pochette de CD à l'image de la pochette de Pink Floyd. Voilà. J'aime bien la danse des batteurs électriques, par exemple. C'est le titre de la chanson. L'approche sensible permet de rétablir les liens, de se reconnecter à l'environnement. Elle travaille pour une appropriation incorporée et affective du soin de la planète et de sa terre. Pour que cela devienne une évidence sensible et surtout pas morale. Car la morale véhicule des impensées culturelles, des rigidités et des retranchements sur lesquels on ne s'interroge pas. Le titre de mon article pour Mallory s'intitule « Réveiller la force ». Parce qu'il y a besoin de réveiller la force de l'apprenant. Albert Dupontel, il y a une petite vidéo, j'ai pas le temps de vous la passer, qui est géniale, où il dit que l'éducation, elle s'intéresse pas à se trouver soi-même, mais à trouver la performance. Donc, j'arrive un peu plus dans la poésie. Qu'est-ce qu'il nous manque? Comment faire pour devenir moins boiteux? Avec les sorties en plein air qui sont très à la mode, hein, en éducation à l'environnement, le fait de sortir, de faire la classe dehors, après le Covid-19, c'est très très prisé. Ça va nous reconnecter au vent, à l'air, à la terre, au sol. Mais en plus, l'ethnographie va nous reconnecter à sa terre, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, au terroir. Mais nous avons aussi extrêmement besoin de la dimension symbolique du regard sur le monde, de ce réenchantement, de cette expérience augmentée avec l'environnement et les objets du monde. Car sinon, la responsabilité est factice, mais j'y reviendrai. C'est-à-dire que si on veut être responsable, pas jeter de déchets, etc., les recycler, c'est pas par la morale qu'on y arrivera, c'est par justement ce réenchantement du monde, aimer le monde créé pour aimer et préserver, mais aussi redonner du sens, du volume. Le regard humain unidirectionnel et objectif impose des catégories rigides qui nous empêchent de voir autre chose, qui nous coupent du monde. C'est les œillères de Platon là, dans la caverne, pour nous connecter au cercle des points de vue de l'autre du monde. Alors c'est quoi cet autre? C'est la pensée sauvage, c'est-à-dire le peuple racine, mais c'est aussi les points de vue non humains auxquels cette pensée sauvage, ce peuple racine, donne une tribune, cet animisme. Il s'agit donc d'élargir la vision, de ne pas rester dans cette idée que le merle a deux pattes et qu'il chante pour appeler la femelle, que c'est qu'une mécanique, etc. L'art permet d'élargir la vision, l'art et la poésie. C'est une autre manière de se relier. L'art et la poésie sont-ils une manière de réinjecter de la pensée sauvage de façon profane dans nos civilisations? Puisqu'on ne va pas redevenir un bororo, on ne peut pas quelque part. Même si les Premières Nations au Canada sont réintégrées à l'université, avec leur vision, il y a des confrontations, etc. Il y en a d'autres par contre qui parcourent les rues et qui sont clochards et alcooliques. Au Canada, à Montréal par exemple. Alors, ce rapport à la nature engendre une posture. Le modèle des sociétés occidentales, c'est la relation pyramidale où l'humain maîtrise la nature vue comme objet ressource silencieux, non sujet de point de vue et d'intention. Dans l'animisme, la relation est circulaire. Elle n'est pas idéale, hein, les points de vue peuvent s'affronter, mais chacun a un point de vue, engendré par ses organes perceptifs. Et là, on rejoint l'éthologue qui nous dit aujourd'hui que la grenouille a un point de vue pointilliste. Donc l'art réinjecte de la pensée sauvage, il stoppe les catégories pour rencontrer des autres points de vue, comme les animistes, pour faire percevoir d'autres liens entre les choses. Donc là, c'est plus du chamanisme. L'art lance des tentacules de couleurs et de formes, c'est de l'énergie, pour établir un lien avec l'environnement. L'art capte l'invisible entre les lignes, d'autres formes d'organisation de la réalité. Et beaucoup de peintres, moi j'aime beaucoup les paroles de peintres, ou de poète, hein. Picasso nous dit que peindre, c'est créer des rimes plastiques. Les rimes plastiques sont des formes qui résonnent entre elles, répondent à d'autres formes ou à l'espace qui les entoure et ont construit un autre environnement. Ça, c'est Descola. Alors, Descola, il a déterminé 4 ontologies. Moi, j'interprète en rouge. Je m'intéresse surtout à l'animisme naturaliste parce qu'après, c'est trop complexe, le totémisme et l'analogisme. Et d'ailleurs, dans le dictionnaire, on ne trouve que l'animisme, on ne trouve pas forcément le totémisme. Donc, l'animisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est dire que chacun a une intériorité semblable, tous les êtres vivants et même les lieux. Une âme, ou moi je dirais une intention, la ressemblance des intériorités, une intention du végétal et de l'animal, du minéral, un conatus, une manière de vouloir, conatus c'est une manière d'être en vie, et ça rejoint l'éthologie de pointe. Par contre la forme est différente, et d'ailleurs les Indiens ont plongé les conquistadors dans l'eau bouillante pour voir si l'enveloppe corporelle était la même qu'eux. Et cette forme différente, ça rejoint l'éthologue. L'abeille, elle ne vit pas dans le même monde que nous. Nous, on ne voit pas les infrarouges. Dans le naturalisme, qui conditionne notre société, c'est l'inverse. Il y a une différence des intériorités. Seul l'homme a une âme. Les autres n'ont pas d'intention, c'est mécanique. La nature est mécanique. Par contre, il y a une ressemblance au niveau de la matière. Notre enveloppe biochimique est la même pour tous. Et ils se sont demandé d'ailleurs, les conquistadors, est-ce que les Indiens ont une âme ? Donc la société contemporaine semble évoluer dans un monde inerte où les animaux se déplacent, où les végétaux poussent et croissent, mus par et pour les mécanismes de la nature. Dans ce tableau, seul l'homme tire son épingle du cadre, arpentant l'espace pour écrire l'histoire et imprimer la marque de ses projets et intentions. Cette conception froide de l'environnement dans lequel nous évoluons et non seulement ethnocentrique, tous les peuples ne pensent pas, mais également anthropogénique. Tous les animaux ne pensent pas ça. Car quel autre existant partage cette conception d'une terre réservée à l'homme ? Et quelle terre pour l'humain ? Une terre fonction ? Et plate, c'est-à-dire sans le volume de tous ces vivants. Vous vous rendez compte de tous les points de vue dont on se prive ? C'est complètement dingue. On ne peut saisir le point de vue de l'autre non-humain. Espace de parole que les incorporations sorcières du chamanisme semblent tenter de proposer. Selon l'éthologue Jacob von Huxley, l'umwelt signifie l'environnement sensoriel engendrant un monde propre. Aujourd'hui, on reconnaît l'interceptif de la raison d'être de l'animal à partir de ce concept. Des organismes, bien que partageant le même environnement, peuvent avoir l'expérience de différents mondes propres. L'abeille qui est à côté de nous, la souris, le ver de terre. Le ver de terre, il est ultra sensoriel. Il faut savoir qu'il bêche la terre, qu'il est ultra important. Donc de quel monde l'humain est-il exclu ? Cette question est plus importante que ce que l'on pense, car ce sont des surplombs en cascade qui sont des impérialismes. On a besoin aujourd'hui de dépasser les surplombs. De l'adultocentrisme, le formatage brise certains élèves, l'art et liberté, pouvoir... Je vous ai parlé de Dupontel, se trouver plutôt que trouver la performance. L'occidentalocentrisme, avec un blanc en surplomb, une forme de pensée sauvage enveilleuse, alors qu'elle est nécessaire, féconde et prolifique. Chez nous, elle va réapparaître sous la forme de l'art et la poésie, mais qui finalement est réservée dans des artistes autorisés. Et finalement, quand ça se met dans la culture, ça se cristallise. Moi, j'aime bien les punks, même si c'est un peu destructeur. Parce que c'est des vrais artistes. C'est-à-dire que, après, la culture, ça se cristallise. L'urinoir de Duchamp, il y a de l'énergie au début, parce qu'il casse des points de vue. Mais après, si on reproduit ça, bon. On doit relativiser les points de vue des peuples, mais aussi l'anthropocentrisme, l'humain en surplomb. En ce moment, en histoire de l'art, les gens se naturent, les artistes se naturent. Ils quittent la position aussi spéculaire de l'homme au centre. La poésie permet de rencontrer avec le cœur, l'intériorité. On stoppe les catégories. Et l'animisme relatif vise tous ces points, non points de vue, mais points de vie des animaux, etc., des lieux... Et j'interroge aussi le surplomb du masculinisme, l'inocentrisme, il ne s'agit pas de fustiger les hommes, mais la culture dominante. Donnons la parole à ce flou artistique fécond. Je disais que Descartes a très peur de la confusion, qui élargit les possibles et attrape quelques rêves. En fait, la part du féminin et masculin en chacun est à développer. Et les artistes sont souvent comme des chamans qui voyagent dans le monde des autres et des lignes de l'invisible et de l'indicible, à l'image des incorporations sorcellaires. Donc le point de vue de pointilliste de la grenouille, on le voit d'un peu plus près. Pierre Clément, c'est un éthologue. Voilà Van Gogh, ben pour moi, il capte l'invisible, hein, parce que on peut voir que son tableau ressemble beaucoup à une image satellite météo. C'est extraordinaire. Il voit en deçà, en fait. Alors zut, je... Hop. Donc la poésie semble un outil essentiel pour se glisser dans cette autre du monde, parce que dans cette vision occidentale du monde, en étant au-dessus de tout, en considérant le reste du monde comme une ressource, l'homme s'exclut de cet inconnu, l'angle mort de la nature qu'on ne connaît pas avec ses besoins, son conatus. La nature est silencieuse puisqu'elle n'est plus un sujet. Il faudrait donc se taire pour entendre ses secrets. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de David Abraham, qui est pionnier. C'est vraiment un pionnier, hein, parce que ça fait longtemps qu'il l'a écrit. La terre s'est tue. Il est génial. Maintenant, il fait de la poésie. Il respire avec la terre. Enfin, il est très très connu. Hein. Et on dit aux enfants, justement, tu vas te taire. Pas pour te punir, mais pour écouter les secrets du lutin. Le lutin, c'est cette figure anthropomorphe qui représente cet accès à l'espace de l'inconnu de la nature. Mais n'empêche, il a des grandes oreilles pour entendre, un grand nez pour sentir, c'est les sens, le sensoriel. On va faire taire la pensée à sens unique, ouvrir. La poésie semble être le point d'orgue de ce nécessaire retournement de paradigme. Elle nous invite à stopper la pensée en catégorie. Elle nous invite à nous connecter à autre chose que nous-mêmes et notre reflet narcissique. Malgré ce qu'on pense, hein, parce qu'on pense que c'est du subjectif qu'on exprime, etc. Rentrer en contact avec le monde. Alors au Burkina, on a travaillé avec le Burkina dans un échange des Alpes au Sahel. Et ce qui était très intéressant, c'est que le lutin, il était immédiatement disponible dans le paysage, dans les dessins. Il apparaissait dans tous les c'est le Kinkirga, petit esprit de la nature. On le voit là, on le voit là, on le voit partout. Alors que pour nous, on va passer par la métaphore de la poésie. Là, il est un peu plus gros, il fait un peu plus peur. Il n'est pas rouge. Parce qu'il est rouge souvent, ce petit lutin. Donc là, on trouve les matrices primaires et secondaires. Hein. Au Burkina, il est dans le dessin. En France, on va passer par la médiation de la poésie. Alors, la poésie, c'est pas de l'appropriation et du contrôle. Car Platon nous dit que celui qui fera de la poésie sans le délire des muses est un poète raté. Parce qu'il s'attelle à construire. Alors, pourquoi pas les alexandrins, hein, c'est une manière de mettre en valeur le rythme, quelque chose de rythmique. Rimbaud nous dit qu'il fait de la poésie objective, parce qu'il se laisse glisser au plus profond de ses sens, de son subjectif. Il se laisse penser plus qu'il pense, il se laisse saisir plus qu'il ne construit. Son processus artistique, c'est « je est un autre ». Donc c'est là où c'est chamanique. Il se laisse saisir, il rentre en contact autrement. Il dit « on devrait dire, on me pense, on me pense ». Et il fustige dans sa lettre du voyant ces peintres horriblement fadasses, qui font de la poésie horriblement fadasse, qui sont trop artistes, il dit « trop bien peigné ». Dubuffet nous dit que l'art ne vient jamais coucher dans les lits qui sont faits pour lui. Et Jean Mallory, l'ethnologue, nous dit la même chose. Il nous dit qu'un Inuit lui dit que pour être un bon chasseur, il veut pas... Jean Mallory lui dit, mais vous devez consigner votre savoir sur la chasse, il est extraordinaire. Eh bien non, parce que les mots congèlent les pensées, les règles congèlent l'intuition. Il veut rester à l'écoute de son intuition, de cette perception aiguisée avec la nature et ses indices. Rester à l'écoute des mouvements de l'instant, en fait. Et là, on rejoint le bouddhisme. Rester en osmose. Il rentre en contact avec la nature pour qu'elle l'informe. Alors certes, c'est pour chasser. Il va, par exemple, danser les mouvements de la baleine pour rentrer en osmose, pour mieux chasser, pour que la nature l'informe. Vous vous rendez compte, ce contact, comme ils ont été... vous avez travaillé sur l'esclavage, mais comme ils ont été arrachés de ce contact avec cette nature extrême, donc c'est tout est extrême là-haut. Eh bien, le facteur cheval, qui est un artiste d'art brut, nous dit la même chose. Il ne faut pas exiger trop de compréhension, cela lui ferait tomber la pierre des mains. Effectivement, il commence son œuvre avec sa tournée de facteur, il se heurte à une pierre, il la ramasse, il la trouve belle, c'est la pierre d'achoppement. Et dans le film avec Jacques Damblin, ça je l'ai prise cette phrase dans ce film, il dit « L'herbe, le vent, mon chemin me guide pour construire mon palais idéal ». Donc son cheminement, l'herbe, le vent. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai.
Combien de temps tu as besoin encore ?
5 minutes.
Ah bah oui, super.
Alors je vais vous lire, ça c'est la balade poétique, ça fait partie de la mallette, c'est la balade poétique qu'on utilisait pour les écoles, hein, qui était donnée aux enseignants pour travailler sur le fleuve. Donc pour les grands, c'était 1 mètre se promener dans la montagne, pour démarrer un tremplin. Un maître se promenait dans la montagne. À son retour, un de ses disciples lui demanda « Maître, où êtes-vous allé vous promener ?»« Dans la montagne, » répondit le maître. Le disciple insista « Mais quel chemin avez-vous pris? Qu'avez-vous vu ?» Le maître lui répondit « J'ai suivi l'odeur des fleurs et j'ai flâné selon les jeunes pousses. Il faut faire confiance aux herbes et aux fleurs qui poussent sans but, naturellement, inconsciemment. » La véritable sagesse et non pas la connaissance. Et puis oui, il rajoute, je l'avais enlevé pour l'éducation nationale, ça, hein, parce que j'ai été contrainte pour l'éducation nationale. La véritable sagesse, cette réponse venait de la source de la sagesse. Alors ça, je l'ai enlevé dans le livret. La véritable sagesse et non pas la connaissance doit être créée au-delà du savoir. Donc je me relis plutôt que je ne sais, plutôt que je ne classe. Le poète contemple le réel et par là même il lui laisse une place à ce réel, comme le chaman qui se met en relation avec les essences, les esprits de la nature. Le poète se met en lien avec son environnement, lui laissant son autonomie. Ça c'est dans mon livre, hein. En développant un regard qui fait silence sur les explications, libre de tout étiquetage. Et Platon, que moi je trouve a été très mal compris, il a été compris comme un rationnel, pour moi c'est tout l'inverse, pour moi c'est un bouddhiste. Platon ne nous signifiait-il pas la même chose en évoquant une beauté en soi, c'est-à-dire contempler, non pas approprier ni discuter. Une beauté non soumise aux projections narcissiques de l'humain. Et là, je le cite, « Beauté éternelle qui ne connaît ni la naissance ni la mort, qui jamais ne change. Cette beauté qui ne se présente pas comme un visage ou comme une forme corporelle, elle n'est pas non plus un raisonnement ni une science. Cette beauté existe en elle-même et par elle-même. Simple et éternelle, et d'elle découlent toutes les belles choses. Si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est à ce moment, lorsque l'humain contemple la beauté en soi. » Ça me fait penser au bouddhisme. Dans le bouddhisme, il y a ce bruit de fond, on dira, de la nature. Moi, j'ai vécu une expérience où on faisait beaucoup de méditation. Bon, les gens en faisaient 9 heures par jour, moi j'en faisais 4 parce que j'ai toujours mon esprit rebelle, mais au bout d'un moment, je me suis sentie complètement en relation avec toute la nature, tous les insectes qui virevoltaient, les poissons du lac. Et c'est ça, cette beauté qui est en soi, quoi, en fait. Alors ça, c'est ce qu'on lit aux enfants. Hein. Je ne sais pas si j'ai le temps, là.
Si tu as envie.
Bon. On leur dit, c'est dans la balade poétique. On va mettre la nature en boîte. L'homme a tendance à tout classer, étiqueter, il qualifie, il nomme. Il a donné un nom à tout ce qui l'entoure, arbre, fleur, oiseau. L'arbre du bord des fleuves s'appelle le peuplier. Mais lui, l'arbre, le sait-il? L'homme, en classant, reconnaît, se repère. C'est nécessaire, ça je le rajoute pour l'éducation nationale. Mais par là même, il a tendance à s'approprier le monde. Lorsqu'on classe, on oublie bien souvent ce que l'on sent. On sait, on range les choses dans une petite case dans sa tête et on oublie de regarder la nature vivre. Car cette nature, elle n'a pas besoin de l'homme pour vivre. Et le peuplier n'est pas seulement qu'un nom sur un cahier, ni l'oiseau un tétrapode défini par ses deux pattes et son bec. L'oiseau, il est ce merle qui chante pour McCartney dans l'album. Le poète, lui, sait contempler la nature. Il sait se mettre en amitié avec la nature. Et alors, cette phrase, pour moi, elle est très simple, mais c'est toute la poésie. Comment devient-on poète ? Demande le facteur au célèbre poète Pablo Neruda. Et lui répond, pourquoi ne descends-tu pas tranquillement au bord du rivage en regardant autour de toi ? Ce n'est pas construire, c'est sentir. D'un point de vue pédagogique, on constate que l'expérience en nature fait le tiers avec l'idée du bien écrire pour les enfants en difficulté, mais aussi pour les adultes qui ont des préconceptions. Les productions sont beaucoup personnelles, l'environnement va leur donner la main pour écrire, pour se trouver plutôt que trouver la performance. Donc ça, c'est le palais idéal du facteur cheval à Haute-Rive. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, et c'est l'œuvre du président de Sciences et Arts Philippe Louis-Grand qui habite à Haute-Rive. Alors je vais bientôt finir. Hein. L'animisme nous montre la voie de l'échange de regards et de la mise au même niveau. Mimer l'oiseau avant d'écrire, comme le chasseur inuit danse la baleine pour épouser son mouvement. L'artiste va se laisser pénétrer par l'environnement qui le guide et l'inspire. C'est une pensée sauvage à l'occidental, la poésie. Je est un autre. L'intuition est issue d'une relation perception de l'environnement où la nature nous informe et nous forme et déforme. L'expérience inuite, c'est une nature naturante. Et Mallory dit que les sociétés inuites sont construites par la nature, en fait. Bon, j'ai déjà dit ça, le poète est traversé, on devrait dire on le pense. Nous sommes coupés du sol et du symbole, donc réveillons nos antennes pour que le vent, l'arbre et l'eau soient levés de mise au monde des perceptions et des idées. Nous fassent redevenir terrestres, reliés à la terre. Et le poète, c'est un voyant aussi, hein, la lettre du voyant de Rimbaud. Et Rimbaud, comme Platon, l'exprime. La poésie est une manière d'accéder à une pensée vivante, remettre des cellules vivantes comme résilience à l'anthropocène, face à la domination de l'artefact. L'art et la poésie veulent saisir la physis, remettre du mouvement contre l'artefact vibré, notion d'enchantement contient la notion de psalmodie, de rite, de vibration et d'énergie. L'art s'échappe de la culture, doit rester non institué, non hué, sinon il se cristallise. C'est l'artiste trop bien peigné de Rimbaud qui fait de la poésie horriblement fadasse. Relisez la lettre du voyant, il le dit. Tout ça, je vous l'ai déjà dit. C'est l'énergie de l'émergence. Donc l'art remet du plein de la densité, du vivant, du lien, lance des tentacules de couleurs et de formes pour faire lien avec l'environnement autrement. C'est un miroir qui permet de se rencontrer. Et c'est des tentacules qui se glissent entre les notes, entre les perceptions du réel, pour prévoir l'invisible et l'indicible, comme le chaman. Donc pour conclure, ça c'est mon sujet, c'était l'éducation, donc réinjecter du sujet et du sensible. Pour faire un saut vers un autre paradigme, il faut entrer dans le siècle du cercle des points de vue. Pour une pensée où il n'y a plus de centre, c'est cet humain qui est au centre, contre l'univers de la pensée unique et fonctionnelle très pauvre, sans vibration du vivant et se privant des autres points de vue du vivant humain et non humain, comme on appauvrit les sols. Vous rendez compte que tous ces sols fourmillent de points de vue et qu'on s'en prive en fait. Il s'agit de réinjecter les points de vue de la pensée sauvage, hein, la pluralité des cultures, donc la pluralité des cultures de chaque être vivant, les points de vue animaux, végétaux, et de chaque individu, l'expérience du sujet à l'école, en éducation. La terre s'est tue, il faut se taire. Terre l'anthropocène et l'occidentalocène avec la domination de la pensée catégorielle. Rétablir les liens et les sujets. Espace dévitalisé, aseptisé, rendre vivant, il est plat, redonner du volume. On a une vision appauvrie, comment on appauvrit les sols. La nature au sens écosystémique rejoint au fond le concept de Pachamama, qui est la terre vivante. Sous la terre qui grouille de vers, il y a de la vie qui fourmille. La terre est animée de mille vies et mille vivants, de milliers de paradigmes et points de vue sur le monde dont on se prive. C'est riche et fascinant, au contraire du paradigme de rationalisation qui piétine et aplatit tout ce vivant. Donc, pour une pensée où il n'y aurait plus de centre, non plus anthropocentrique, non plus eurocentrique, je me suis trompée là, anthropogénique, je voulais dire. Oui, anthropocentrique, c'est dit. Les surplombs de l'humain, du nord, de l'homme et de l'adulte. Je finis par un poème, enfin, c'est pas un poème, c'est une sorte de poème. Rentrer dans le cercle, vivre et non plus seulement penser, passer de l'autre côté, c'est quand je faisais ma thèse. J'ai beaucoup rêvé d'images, mes mains étaient guidées, c'était une explosion de joie, la couleur se superposait sur quatre petits dessins géométriques aux angles d'un grand carré en relief. Puis je me souviens de cette impression en me promenant avec l'anthropologue africain qui me disait « le blanc ne saisit pas le fétiche ». J'ai soudain traversé la dimension. Le sol du pont Lafayette se faisait compact, rose et brillant. La ville s'éclairait, ma vision devenait panoramique, circulaire. L'espace s'ouvrait en même temps que ma conscience. Puis tout redevint normal. La présence d'une promesse de l'ailleurs, l'appel de la sphère du fétiche, du non-verbal. Devenons sensibles aux scènes, moteur en profondeur de changement de comportement. C'est le message de Science et Art et son travail. Et voilà, merci.
Merci, Edith.